Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Mina Harker, 25 septembre, suite. Il était 2h30 quand j'entendis le heurtoir de la porte d'entrée. J'eus le courage d'attendre. Quelques minutes se passèrent et Marie vint annoncer le docteur Van Helsing. Je me levai et m'inclinai tandis qu'il avançait vers moi. C'est un homme de taille moyenne, assez fort, et tout chez lui, aussi bien le corps même que le port de la tête, le visage, l'expression des traits, annonce une parfaite assurance. Le front est haut, s'élevant d'abord presque tout droit, puis fuyant entre deux protubérances assez distantes l'une de l'autre. Un front tel que les cheveux roux ne puissent pas retomber dessus. Ils sont naturellement rejetés en arrière et sur les côtés. Les yeux sont grands, bleu foncé, eux aussi assez écartés l'un de l'autre. Ils sont vifs, pénétrants ou se font tendre ou sévères selon qu'ils expriment tel ou tel sentiment qui anime le professeur. Madame Harker, je crois, je répondis d'un signe de tête, qui était auparavant Mademoiselle Mina Murray, même geste de ma part. C'est Mina Murray que je viens voir, l'amie de cette pauvre enfant, notre chère Lucy Westenra. Oui, Madame Mina, c'est au sujet de la morte que je désire vous parler. Monsieur, lui répondis-je, vous ne pouvez pas avoir de titre meilleur pour vous adresser à moi que celui d'un ami qui a soigné et assisté Lucy Westenra dans ses derniers moments. Et je lui tendis la main. Il la prit en répondant sur un ton très doux. « Oh, Madame Mina, je savais que l'ami de cette pure enfant ne pouvait qu'avoir un cœur très généreux, mais il me faut encore... Enfin, je voudrais savoir... » Il s'interrompit en s'inclinant courtoisement. Comme je le priais de poursuivre, il reprit aussitôt. « Eh bien, j'ai lu les lettres que vous avez écrites à Mademoiselle Lucy. » Pardonnez-moi, mais il fallait bien que je commence par interroger quelqu'un et je ne savais pas à qui m'adresser. Je sais donc que vous étiez avec Mademoiselle Lucie et sa mère à Whitby. De temps en temps, elle tenait un journal. Non, n'ayez pas l'air surprise, Madame Mina. Elle avait commencé à écrire ce journal après votre départ et, me semble-t-il, voulait ainsi suivre votre exemple. On y trouve des allusions à une promenade qu'elle aurait faite pendant un de ses accès de somnambulisme et au fait que vous l'auriez sauvée en cette occasion. C'est très perplexe, vous comprenez, que je viens à vous dans l'espoir que vous aurez la bonté de me donner tous les détails dont vous vous souvenez à ce sujet. Je pense, docteur Van Helsing, que je serai à même de vous raconter exactement toute cette aventure. Tout, dites-vous, tous les détails? Mais alors, Madame Mina, vous devez avoir une mémoire extraordinaire. Cela se rencontre rarement chez les jeunes femmes. À dire vrai, docteur, j'ai noté au fur et à mesure les événements quotidiens dont j'étais témoin. Je peux vous montrer mes notes, mon journal, si vous le désirez. Oh, Madame Mina, je vous en saurais gré. Vous me rendriez là un service immense. Pourquoi me fut-il impossible de résister à la tentation de le mystifier un moment? Je suppose que nous, les femmes, avons encore dans la bouche le goût de la pomme originelle. Toujours est-il que je lui tendis d'abord mon journal sténographié. Il le prit en s'inclinant encore très courtoisement et me demanda « Je puis le lire ?»« Certainement, » répondis-je, aussi posément que je pus. Il ouvrit le cahier, y jeta les yeux, puis se leva et s'inclina une fois de plus. « Oh, vous êtes une femme étonnante !» s'écria-t-il. « J'ai compris depuis longtemps que Monsieur Jonathan vous admirait. Vraiment, il y a de quoi. Voudrez-vous encore me faire l'honneur, Madame Mina, de m'aider de me lire ceci, car hélas, je ne connais pas la sténographie. » Je jugeais que ma petite plaisanterie avait assez duré. J'avoue que j'en étais presque honteuse. Je lui présentai la copie dactylographiée. « Pardonnez-moi, » fis-je. Je savais que c'était de notre chère Lucie que vous veniez me parler, et me disant que peut-être vous n'auriez pas beaucoup de temps à rester ici, j'avais, à votre attention, recopié ces notes à la machine à écrire. Les yeux brillants, il prit mes feuilles. Vous êtes si bonne, Madame Mina. Mais puis-je les lire maintenant, sans attendre? Peut-être, quand je les aurai lues, aurai-je à vous poser certaines questions. Assurément, lisez-les pendant que je vais voir si l'on prépare le lunch. Vous pourrez ainsi me questionner pendant le repas. Il me remercia et s'installa dans un fauteuil, tournant le dos à la lumière. Tout de suite, je devinai qu'il était absorbé dans sa lecture, et si, en effet, j'allais à l'office, ce fut avant tout pour ne pas le distraire. Lorsque je rentrai au salon, il marchait de long en large, à grands pas, les joues en feu. Il se précipita vers moi et me prit les deux mains. « Oh, Madame Mina, comment vous dire tout ce que je vous dois? Ce journal est lumineux comme le soleil. Il m'ouvre une porte. Je suis éblouie, véritablement éblouie par tant de lumière, et pourtant des nuages se forment encore à chaque instant derrière cette lumière. Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Sachez seulement que je vous dois beaucoup, à vous qui êtes une femme si intelligente. Madame, continua-t-il sur un ton très grave, si jamais Abraham Van Helsing peut faire quelque chose pour vous ou pour les vôtres, j'espère que vous vous confierez à lui. J'aimerais alors, je voudrais vous aider comme un ami. Comme un ami, mais en ajoutant à l'amitié sincère, inébranlable, que j'ai désormais pour vous, tout ce que m'a appris une longue expérience. Oui, je ferai tout ce dont je suis capable pour vous venir en aide, à vous et à ceux que vous aimez. Il y a beaucoup d'obscurité dans la vie, mais il y a aussi des lumières. Vous êtes une de ces lumières. Vous serez heureuse, vous serez comblée, et votre mari trouvera en vous le bonheur. Mais docteur, vous m'adressez trop d'éloges, et sans me connaître. Sans vous connaître, moi? Moi qui suis vieux et qui ai passé toute mon existence à observer, à étudier les hommes et les femmes, à étudier tout spécialement le cerveau humain, tout ce qui s'y rapporte, tout ce qui peut procéder de ce cerveau. Moi qui viens de lire votre journal, dont chaque ligne respire la vérité. Moi qui ai lu la lettre que vous écriviez à la pauvre Lucie immédiatement après votre mariage. Moi, je ne vous connaîtrai pas. Oh, Madame Mina, les femmes généreuses n'ont pas à se servir de mots pour raconter l'histoire de leur vie. Et cette vie, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, les anges savent la lire. Nous, les hommes, dont le désir le plus vif est d'observer pour pouvoir comprendre, nos yeux ressemblent un peu à ceux des anges. Votre mari est un naturel généreux, vous aussi, car vous avez confiance dans la vie, et pour croire en la vie, il faut être bon. Mais votre mari, parlez-moi de lui maintenant. Va-t-il tout à fait bien? Cette fièvre qu'il a eue, en est-il tout à fait remis? Je vis que c'était le moment, en effet, de lui préciser certaines choses concernant la santé de Jonathan, de lui demander ce qu'il en pensait. Je commençai par répondre. Il était presque rétabli, mais la mort de M. Hawkins a été pour lui un coup très dur. Le docteur m'interrompit. Oh oui, je sais, j'ai lu vos deux dernières lettres. Enfin, je suppose, repris-je, que c'est cette mort qui l'a bouleversé. Le fait est que lorsque nous étions à Londres jeudi dernier, il a reçu comme un nouveau choc. Un nouveau choc? Peu de temps après, une fièvre cérébrale. Ah, cela est fâcheux. Quel genre d'émotion? Il a cru voir quelqu'un qui lui rappelait une chose terrible, cette chose même qui a provoqué sa fièvre cérébrale. Et moi-même, à mon tour, je crus soudain que je n'en supporterais pas davantage. La pitié que j'éprouvais pour Jonathan, les horreurs qu'il avait vécues, l'épouvantable mystère que l'on devinait en lisant son journal, et la crainte qui n'avait cessé de grandir en moi depuis que j'avais fait cette lecture, tout cela me déchira véritablement le cœur, et sans doute perdis-je la tête un moment, car je me jetai à genoux et levai les mains vers le docteur en le suppliant de guérir mon mari. Il me prit les mains, m'obligea à me relever, me fit asseoir sur le sofa où il s'assit près de moi. Tenant toujours ma main dans la sienne, il me dit alors, oh, avec quelle bonté dans la voix, « J'ai toujours vécu fort seul. C'est parce que mon existence, justement, a été remplie par le travail, que je n'ai pour ainsi dire pas eu le temps de me consacrer à mes amis. Mais depuis le jour, pas très lointain, où mon cher John Seward m'a appelé ici, j'ai appris à connaître tant de personnes au grand cœur, dévouées et généreuses, que maintenant, plus que jamais, je ressens ma solitude. Et pourtant, elle n'avait fait que croître au cours des années. Croyez donc que c'est plein de respect pour vous que j'ai frappé à votre porte. Car vos lettres à la pauvre mademoiselle Lucie m'avaient fait déjà espérer, non pas que j'allais découvrir ce que je cherchais, non, pas cela, mais qu'il existait encore des femmes capables de donner un sens à la vie, peut-être même de la rendre heureuse. Des femmes dont l'existence tout entière servirait d'exemple aux enfants qui devraient naître. Je suis vraiment heureux d'être ici et de pouvoir faire quelque chose pour vous. Car si votre mari souffre, il me semble que je pourrais porter remède à sa souffrance. Je vous promets de m'y appliquer de mon mieux, afin que votre vie à tous deux soit éclairée par le bonheur. Maintenant, il vous faut manger. La fatigue vous a épuisé, et l'inquiétude aussi. Votre mari n'aimerait pas vous voir si pâle. Et ce qu'il n'aime pas chez celle qu'il aime ne peut assurément pas lui faire du bien. C'est donc en pensant à lui, à sa guérison complète, que vous devez manger de bon appétit et sourire fréquemment. Maintenant que vous m'avez dit tout ce que vous savez concernant Lucie, nous ne parlerons plus aujourd'hui de cette pauvre enfant, ni de ses souffrances. Cela ne servait à rien, sinon à nous replonger dans la tristesse. Seulement, je vais passer la nuit ici, avec cette heure, car il faut encore que je réfléchisse à ce que vous venez de m'apprendre. Puis, si vous me le permettez, je vous poserai à nouveau quelques questions. Pour l'instant, vous allez essayer de m'expliquer de quoi se plaint Jonathan. Non, non, pas tout de suite. Vous devez d'abord bien manger, tranquillement, tranquillement. Après, vous m'expliquerez. Le lunch terminé, nous retournâmes au salon, et sans attendre, il me dit « Parlez maintenant, je vous écoute. » Au moment d'expliquer ce que je savais à cet éminent savant, je craignis qu'il me prît pour une idiote et Jonathan pour un fou, car vraiment, son journal contient des choses si bizarres. Aussi, voyant que j'hésitais, il m'encouragea gentiment, me promit de m'aider si je trouvais la chose, à certains moments, trop difficile. « Trop difficile, oh, c'est bien cela, docteur Van Helsing. Tout paraît si étrange dans cette histoire, incompréhensible. Ne riez pas de moi, ni de mon mari, je vous prie. Depuis hier, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Soyez bon, ne me traitez pas de folle quand vous saurez quelles choses insolites ont pu me paraître réelles. » Non seulement sa réponse, mais le ton même sur lequel il me répondit, me rassurèrent. « Ma chère enfant, si vous saviez à quel point est insolite l'affaire pour laquelle on m'a appelé ici, c'est vous qui vous moqueriez. J'ai appris à ne jamais négliger ce qu'un homme ou une femme peut croire. Même ce qu'il ou ce qu'elle croit me paraît d'abord invraisemblable. J'ai toujours et avant tout essayé de garder l'esprit ouvert. Et ce ne sont pas les petits événements ordinaires de la vie, ceux auxquels nous sommes habitués, qui pourraient me le faire ouvrir davantage encore, mais bien les choses étranges, bizarres, extraordinaires, celles qui nous font plutôt douter de notre lucidité. Oh, merci, merci, merci mille fois. Vous me soulagez d'un grand poids. Si vous le permettez, je vais vous donner quelque chose à lire, quelque chose d'assez long, mais je l'ai recopié à la machine. Cela vous aidera à comprendre mes angoisses et celles de Jonathan. C'est la copie du journal qu'il a écrit pendant son séjour en Transylvanie. Je préfère ne rien vous en dire. Vous jugerez vous-même. Et alors, quand nous nous reverrons, peut-être aurez-vous la bonté de me dire ce que vous en pensez réellement. Je vous le promets, fit-il comme je lui tendais les feuillets. Et avec votre permission, demain matin, aussitôt que cela me sera possible, je viendrai vous rendre visite à vous et à votre mari. Jonathan sera ici à 11h30. Venez déjeuner avec nous. Vous pourrez prendre l'express de 3h34 et serez à Paddington avant 8h. Il parut étonné que je connusse si bien l'horaire des trains. Il ne savait pas, naturellement, que je l'avais étudié afin de faciliter les choses à Jonathan au cas où il devrait précipitamment partir en voyage. Le docteur Van Helsing prit donc les feuillets qu'il emporta. Demeuré seul, je me mis à penser, et je pense encore à je ne sais quoi. Thank you. Lettre de Van Helsing à Madame Harker. 25 septembre, 6h du soir. Chère Madame Mina, j'ai donc lu l'étonnant journal de votre mari. Soyez tranquille, n'ayez plus le moindre doute. Aussi étrange, aussi terrible que tout cela puisse être, tout cela est vrai. J'en suis absolument certain. Pour d'autres, cela pourrait signifier le pire. Pour lui et pour vous, il n'y a au contraire rien à redouter. Votre Jonathan est un homme courageux, décidé. Laissez-moi vous dire, et je parle d'expérience, m'étant penché sur bien des cas, que celui qui a osé descendre le long du mur et entrer dans cette chambre comme votre mari l'a fait, oui, et cela à deux reprises, celui-là ne souffrira pas sa vie durant du choc qu'il a pu recevoir. Ses facultés mentales et affectives sont intactes. Je puis vous le jurer avant même d'avoir vu votre mari. Soyez tout à fait rassuré à ce sujet. Cependant, je voudrais l'interroger à propos d'autre chose. Je me félicite d'être allé vous voir aujourd'hui, car j'en ai tant appris en une fois que de nouveau, je suis comme ébloui, je l'avoue, comme jamais, et il me faut encore beaucoup réfléchir. Votre tout dévoué, Abraham Van Helsing. Madame Harker au docteur Van Helsing. 25 septembre, 6h30 du soir. Mon cher docteur Van Helsing, je vous remercie mille fois pour votre aimable lettre qui m'a tellement rassurée, oui. Et pourtant, si tout cela est vrai, comme vous le dites, quelles choses affreuses peuvent exister en ce monde? Et se peut-il, hélas, que cet homme, ce monstre, soit à Londres? J'ai peur à cette seule pensée. Je reçois à l'instant, pendant que je vous écris, un télégramme de Jonathan m'annonçant qu'il quitte Launceston ce soir à 6h25 et qu'il arrivera ici à 10h18. Voulez-vous peut-être, au lieu d'être des nôtres demain midi, venir partager notre petit déjeuner à 8h, si ce n'est pas trop pour vous? Au cas où vous seriez pressé, vous pourriez partir par le train de 10h30, qui arrive à Paddington à 2h35. Ne répondez pas à ce mot. Si je ne reçois rien de vous, je vous attends pour le petit déjeuner. Croyez-moi, je vous prie, votre reconnaissante et fidèle amie, Mina Harker. Journal de Jonathan Harker, 26 septembre. Je pensais ne jamais reprendre ce journal, mais il me semble que je dois à nouveau écrire. Quand je suis rentrée à la maison hier soir, Mina m'attendait pour souper, et notre repas une fois terminé, elle m'a raconté la visite de Van Helsing, et m'a dit qu'elle lui avait donné une copie de son journal, et une copie du mien. Et, pour la première fois, elle m'avoua à quel point elle avait été inquiète à mon sujet. Mais elle me montra immédiatement la lettre du docteur, où il affirme que tout ce que j'ai écrit dans mon journal est la vérité même. Depuis que j'ai lu cela, j'ai l'impression d'être un autre homme. Le doute où j'étais de la réalité de cette aventure me plongeait dans un abattement d'où, me semblait-il, je ne sortirais jamais. Je sentais en moi une sorte d'impuissance à agir. Tout m'était obscurité, sujet de méfiance. Mais à présent, je sais, je n'ai plus peur de rien ni de personne, pas même du comte. Après tout, il avait l'intention de venir à Londres, et il y est venu. C'est lui que j'ai vu l'autre jour. Il a rajeuni. Comment y a-t-il réussi? Van Helsing est l'homme qui va le démasquer, le chasser à tout jamais de notre vie, si Van Helsing est bien tel que Mina le décrit. Mina s'habille, et dans quelques minutes, je vais aller prendre le professeur à son hôtel. Il a paru assez surpris quand il m'a vu. J'entrai dans sa chambre et dès que je me fus présenté, il me prit par les épaules, me fit tourner sur moi-même de sorte que mon visage fut alors en pleine lumière Et après l'avoir sérieusement examiné, il s'étonna. « Mais Madame Mina m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez reçu un choc. » C'était assez drôle d'entendre ce vieil homme appeler ma femme Madame Mina. Je souris en lui répondant. « Oui, j'ai été malade, j'ai reçu un choc. Mais vous m'avez déjà guéri. » « Guéri ? Et comment ?»« En écrivant à Mina la lettre que vous lui avez envoyée hier soir. » Je doutais de tout, tout se teintait pour moi d'irréel, je ne savais pas ce qu'il me fallait croire, je me méfiais même de ce que j'éprouvais. Et ne sachant pas ce qu'il me fallait croire, je ne savais pas non plus ce que je devais faire. Je sentais que je continuerais toujours à suivre l'ornière. Mais d'autre part, je souffrais de ce que mon travail devenait de plus en plus une sorte de routine, et c'est alors que je commençais à ne plus croire même en moi. « Docteur, vous ne savez pas ce que c'est que de douter de tout et de soi-même. »« Non, vous ne le savez pas. C'est impossible. On le devine, rien qu'à voir votre front. » Il parut amusé et dit en riant. « Ah, vous êtes physionomiste. Depuis que je suis ici, j'apprends de nouvelles choses d'heure en heure. C'est avec le plus grand plaisir que je partagerai votre petit déjeuner. Oh, monsieur, vous permettrez, n'est-ce pas, au vieillard que je suis, de vous parler sincèrement. » Vous êtes heureux d'avoir une femme telle que la vôtre. » Une journée entière, je leur ai écouté faire l'éloge de Mina, de sorte que j'acquiesçais d'un simple signe de tête et demeurais silencieux. Elle est vraiment une femme de Dieu. Il l'a faite de sa propre main pour nous prouver, à nous les hommes et aussi aux autres femmes, qu'il existe un paradis où nous entrerons un jour et que, dès maintenant, sa lumière peut nous éclairer sur la terre. Un être si fidèle à soi-même et aux autres, si doux, si généreux, qui se donne tout entier à son entourage. Cela, laissez-moi vous le dire aussi, c'est rare, et c'est, de ce fait, beaucoup dans notre siècle de scepticisme et d'égoïsme. Et vous, monsieur, j'ai lu toutes les lettres de votre femme à la pauvre Miss Lucie, et beaucoup de ces lettres parlent de vous. Je vous connais donc depuis quelques jours déjà, grâce à ceux qui vous connaissent. Mais ce que vous êtes réellement, je le sais seulement depuis hier soir. Donnez-moi la main, voulez-vous, et soyons amis pour toujours. » Nous nous serrâmes la main, cette cordialité si sincère m'émut profondément. « Et maintenant, me dit-il, puis-je vous demander de m'aider encore? J'ai devant moi une tâche importante à accomplir, et pour cela, avant toute chose, il me faut savoir. C'est ici que j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avant votre départ pour la Transylvanie? Plus tard, peut-être, aurai-je encore recours à vous, mais pour résoudre des questions d'ordre différent. Que vous répondiez à celle-là, voilà qui me suffira pour le moment. » Mais monsieur, fis-je, je ne vois pas le rapport à établir entre le comte et l'affaire dont vous vous occupez. » Il y en a un pourtant, répondit-il. Dans ce cas, comptez sur moi. Après le petit déjeuner, je le conduisis à la gare. Au moment de nous séparer, il me dit : Pourriez-vous venir à Londres si je vous le demande, et y venir avec Madame Mina ? Nous viendrons tous les deux quand cela vous conviendra. Je lui avais acheté les journaux du matin ainsi que les journaux de Londres du soir précédent, et tandis que nous bavardions à la portière du compartiment en attendant le départ du train, il les feuilletait. Son attention parut soudain attirée par un titre de la Westminster Gazette, et aussitôt il blêmit. Il lut quelques lignes, et je l'entendis murmurer avec effroi. « mon Dieu, déjà, déjà !» Je crois que dans son émotion, il avait même oublié ma présence. Le sifflet retentit et le train s'ébranla. Rappelé alors à la réalité, Van Helsing se pencha à la portière, agita la main et me cria : « Toutes mes amitiés à Madame Mina, j'écrirai dès que je le pourrai. »